Antoine Garapon est magistrat, il est juge pour enfants, il est secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice. Vous pouvez le retrouver en librairie chez Odile Jacob. Je signale deux de ses livres, Le gardien des promesses et Le bien jugé, qui date de 1996. Vous pouvez le retrouver également sur France Culture le samedi. 11h pour une émission intitulée Le bien commun, bien commun qui est le titre d'une collection qu'il a fondée, qu'il dirige aux éditions Michalon.
Merci. Merci. Donc mon sujet, c'est de parler des fonctions rituelles de la justice. En général, quand on parle de rite de la justice, immédiatement, la première idée qui est associée, c'est celle d'une dénonciation. Les rites de la justice obstruent la vraie justice, obstruent l'idée même d'être juste, par tout un fatras, tout un folklore, et de rites, et finalement de comédies. Et derrière l'idée rituelle de la justice, il y a la parodie. La justice serait toujours tentée d'être une parodie de justice parce qu'elle se met en scène. Et je voudrais tout d'abord écarter une première explication des fonctions rituelles de la justice, non parce qu'elles sont fausses d'ailleurs, mais parce qu'elles me semblent réductrices. Cette explication, c'est de voir dans les fonctions rituelles de la justice, dans tout le dispositif symbolique qui entoure l'action du juge, d'y voir un instrument de domination sociale. C'est bien sûr, c'est une explication dans laquelle la sociologie a sauté à pieds joints depuis Durkheim encore que, et puis surtout, on pense à Bourdieu, ou on pense à Garfinkel aux États-Unis pour un article très célèbre en 1954, parlant des cérémonies de dégradation publique et disant « la justice n'est rien d'autre qu'une actualisation, une modernisation de cette fonction de dégradation sociale ». Une théorie plus féconde et plus forte en même temps est celle de René Girard, qui voit dans ce dispositif rituel une sorte de résurgence, de trace plus exactement, d'un mécanisme sacrificiel auquel la justice judiciaire moderne a fait suite. Et finalement, dans ces rites de la justice, resterait quelque chose de la mémoire de ce qu'a été préalablement la justice, un sacrifice. Un sacrifice, c'est-à-dire que la justice serait une euphémisation, en quelque sorte, d'un premier lynchage spontané suite à un trouble social, de façon à ramener l'ordre dans la communauté. Et les rites judiciaires seraient là pour maquiller une fonction éternelle, permanente, constante de la justice, qui serait d'accomplir cette fonction sacrificielle. Alors, je ne pense pas du tout, et je crois que ces théories ont beaucoup apporté, et elles ne sont pas fausses, mais elles présentent un inconvénient que je vais essayer de contourner ce matin, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas le temps d'analyser ce qu'est un rituel, en quoi il consiste, quelles sont ses caractéristiques. Et finalement, elles se précipitent trop dans une explication, et qui annonce d'ailleurs une dénonciation, et ce qui les empêche de comprendre toutes les dimensions des fonctions rituelles de la justice. Quelles sont ces dimensions? Je crois qu'un rite, c'est tout d'abord, c'est une relation au temps. C'est une relation au temps tout à fait particulière parce que c'est une relation au temps qui nous rapproche et qui nous remet en communication avec le temps des origines, avec le temps de la fondation, avec le temps de ce qui nous constitue comme comme société. C'est ensuite le rituel, c'est ensuite une relation à l'espace. C'est l'intermédiaire par lequel nous pouvons rentrer en communication avec le monde entendu comme le cosmos, entendu comme la dimension cosmologique ou cosmogonique du monde. Et enfin, grâce à ces deux situations fondamentales, le rite a quelque chose à voir avec les partitions essentielles, du dedans, du dehors, du haut, du bas, du pur et de l'impur, du juste et de l'injuste. Autrement dit, je crois que la force du rituel, et c'est ce qui va orienter mon topo, c'est qu'il ne connaît pas, il transcende en quelque sorte, il ne connaît pas la rupture, la discontinuité entre le geste, l'anthropologique et l'esprit, si vous voulez, entre l'éthique. C'est-à-dire que le rituel trace un espace, transcende le temps et régénère l'ordre. Et donc, on peut dire, et je vais très vite, que la justice est intimement liée au rite, dans le sens où le rituel a été la première forme de justice, c'est-à-dire que pendant longtemps, le rituel était une manière de provoquer l'intervention des dieux dans les affaires humaines. Accomplir un rite, dit Ricoeur, c'est faire quelque chose avec la puissance. Et jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, je vais très vite parce que c'est pas, mon propos n'est pas historique, le rituel, la justice, se borne à être un rituel, une ordalie, c'est-à-dire un ensemble de rites destinés à ce que la divinité, Dieu, dans l'Occident chrétien du Haut Moyen-Âge, se prononce sur une affaire. C'est réactiver une sorte de miracle judiciaire à chaque fois. Et puis, l'histoire du rite, l'histoire de la justice, c'est précisément sa libération, son émancipation à l'égard de cette dimension rituelle ordalique pour donner au rite une nouvelle fonction, pour donner au rituel la fonction d'organiser le débat, pour donner au rituel la fonction de prendre en charge, de donner un cadre à l'espace public de discussion et d'assurer la circulation de la parole légitime. En d'autres termes, il y a toujours une part rituelle à la procédure et ces deux fonctions du rite ne sont jamais, l'histoire n'est jamais terminée. C'est-à-dire que nous ne débarrassons jamais de cette première dimension du rituel qui tend vers le sacré et jamais la procédure n'est une procédure pure, absolument délivrée de toute relation au temps originel ou à l'espace cosmique. Alors, ma question, et là, j'en viens donc à ce que je voudrais aborder ce matin, c'est de se demander si les formes rituelles de la justice ont un avenir et quelles fonctions nouvelles elles remplissent dans notre modernité démocratique. Je constate que on a vu ces derniers temps un phénomène assez paradoxal, c'est que finalement plus nous sommes éloignés de toute référence religieuse, plus nous sommes éloignés de toute transcendance, plus nous consommons, j'allais dire, des rites du procès. C'est-à-dire que nous avons vu notre opinion publique, aussi bien en France que dans tous les pays démocratiques, sont secouées par des procès retentissants. Je pense à l'affaire du sang contaminé, je pense à l'affaire Papon, je pense à l'affaire Clinton, je pense au grand procès l'affaire Dutroux en Belgique, tenez, l'affaire Pinochet, dont nous suivons le feuilleton quotidiennement. C'est-à-dire que nous assistons à un réinvestissement dans les rituels de la justice. Et je voudrais aborder cette question donc, de ce réinvestissement, l'aborder non pas par sa dimension éthique, mais par sa dimension rituelle, justement. C'est-à-dire que si on reprend une affaire comme l'affaire Clinton, on voit bien que, alors que ce qui était initialement reproché au président, c'était une passade amoureuse, et en réalité, ça s'est transformé en une infraction rituelle, une sorte de transgression symbolique, celle d'avoir menti au jury. Et on est passé, si vous voulez, d'une infraction substantielle à une transgression rituelle, ce que dans mes catégories j'appelle rituelle. En d'autres termes, on pourrait, ça sera mon hypothèse, formuler l'équation suivante. Les formes rituelles du procès seraient d'autant plus sollicitées aujourd'hui que justement les formes symboliques de la politique sont en difficulté. En d'autres termes, est-ce que cette grande question qui traverse toute la philosophie politique, qui est la question de la théologie, du théologico-politique, n'est-il pas en train de se convertir en un théologico-judiciaire? Alors, est-ce qui repose la dimension politique de cette question des rituels? Alors, si vous voulez, je crois très rapidement qu'un premier argument pourrait être tiré de pourrait être tiré de la déception du politique, de l'effondrement du politique. Et je ne vais pas m'apesantir, parce qu'encore une fois, il y aura d'autres conférences là-dessus, j'imagine. C'est-à-dire que, bien sûr, nous sommes toujours, et le droit encore plus que le reste, nous subissons toujours les conséquences de cette catastrophe fondamentale qui est la Shoah, qui est le crime contre l'humanité, c'est-à-dire qui est l'effondrement du politique sur lui-même et qui coupe le siècle dernier en deux et finalement dont nous ne sommes toujours pas remis, j'allais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une nouvelle recomposition du politique, non plus autour de la souveraineté, mais autour de l'idée d'humanité. Et l'humanité qui vient en lieu et place des anciens transcendants que pouvait être la nature ou l'histoire. C'est-à-dire, pour le dire avec Agnès Lejbovitch, avec la perception du crime contre l'humanité, se produit une rupture dans l'histoire, semblable à celle des révolutions françaises et américaines, mais une rupture qui ne provoque pas l'enthousiasme comme alors, mais nous remplit d'horreur et nous révèle l'abîme dont nous devons sortir pour être humains encore. L'enthousiasme des révolutionnaires provenait de l'idée enfin exprimée selon laquelle la politique a pour but la prise en charge du destin d'un peuple par lui-même, l'horreur des camps née et grandie de cette découverte que les hommes ont été capables de décider que le destin d'autres hommes serait de ne pas avoir de destin. Et donc, c'est ce qui donne en droit la déclaration, je pense qu'on y reviendra dans les conférences ultérieures, ce qui donne la déclaration universelle des droits de l'homme et même l'idée de droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est une rentrée dans le politique, non pas par l'idée d'une vie bonne, d'une utopie positive, mais par le crime, par un crime épouvantable, par le crime contre l'humanité, donc où on est confronté de manière brutale à l'énigme du mal. Et d'ailleurs, dont nous voyons, entre parenthèses, dont on voit dans les actualités, dans les nouvelles, dans le 20h, d'autres versions, beaucoup plus soft, c'est-à-dire cette fascination de nos contemporains pour le pouvoir criminel, pour la science, le médecin qui inocule le poison plutôt que de soigner, pour le père qui souille sa descendance plutôt que de l'éduquer, je fais référence aux affaires de pédophilie, vous l'avez compris, pour l'homme public qui détourne le bien qu'on lui a confié, et pour bien sûr l'État qui déporte et tue les populations dont il est chargé d'assurer la protection. Donc, une inquiétude profonde sur une perversion du pouvoir, c'est-à-dire le mal ne vient plus de la périphérie, des classes dangereuses, ne vient plus du bas, on pourrait dire, mais vient au contraire de la tête, vient du haut, vient de ceux-là même qui devaient le combattre. Alors, d'où la naissance d'une nouvelle utopie démocratique sous la forme d'une justice universelle. Je crois que personnellement, il y a une énigme, quoi, il y a une histoire qui n'est toujours pas écrite, une énigme qui n'est toujours pas résolue, qui parcourt tout le siècle dernier, c'est-à-dire que la guerre d'agression en plus devient un crime et non plus un acte de politique internationale. Et la meilleure manière d'y répondre n'est pas seulement de la combattre, d'y répondre, de résister, mais c'est aussi de lui faire un procès. Et je garde personnellement intact mon étonnement devant l'acte inaugural du tribunal de Nuremberg, qui reste une énigme, et que c'est beaucoup trop rapide de dire le tribunal de Nuremberg, c'est la justice des vainqueurs, c'est une humiliation supplémentaire que les Alliés veulent faire subir aux Allemands, alors qu'en réalité, on voit aujourd'hui que les Alliés, si tel était leur cas, ont bien raté leur effet, parce qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore, et aujourd'hui, par exemple, l'attitude des Américains dans les négociations sur la CPI est extrêmement prudente, et ils ont très peur de ce grand mouvement et qui renaît d'ailleurs de ces dernières années, qui est celui que, eh bien, tous les grands crimes et les crimes des grands seront jugés finalement qui n'échapperont pas à l'impunité, à leur culpabilité, que l'impunité sera combattue sous toutes ses formes. Et je crois que dans cette idée de justice universelle, il y a quelque chose, il y a plusieurs ingrédients. Il y a d'abord certainement une influence du jugement eschatologique qui a tant marqué l'Occident, le jugement dernier. Il y a aussi une conversion de la philosophie de l'histoire en une philosophie de la justice, en une idée d'un jugement pour tous. Alors, En quoi ça concerne le rituel? En quoi cette utopie de la justice universelle concerne-t-elle le rituel? Je crois que nous n'avons pas, c'est le dogme en quelque sorte de cette nouvelle utopie, c'est qu'on a peut-être renoncé à transformer le monde, mais on n'a pas renoncé à le juger. Le jugement est la dernière réaction, la dernière aventure politique qu'il nous reste lorsque le politique a joué en quelque sorte contre son camp, la justice est la dernière manière de relever le politique de son effondrement. Alors, si on prend et on analyse ces grands procès, le procès de Nuremberg, ou le procès Eichmann, ou le procès Papon, ou Barbie, ou d'autres grands procès d'ailleurs moins dramatiques, eh bien, la première réaction à l'effondrement de la scène politique consiste à ériger une scène. Ériger une scène pour représenter le crime, pour le mettre en scène, c'est-à-dire pour le mettre dans des mots, dans des gestes, et en même temps, pour le faire rentrer dans ces catégories éternelles de l'accusation et de l'innocence et de la culpabilité. Donc, la scène de la justice, par ses procédures et par ses rites, va offrir, et c'est là que Gilles l'utopie, va offrir à la cité le pouvoir de maîtriser son histoire, d'opérer une sorte d'inversion morale du temps, on pourrait dire. C'est-à-dire que le procès est ce moment rétrospectif de la conscience où les faits vont revenir, vont être représentés à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils vont être réactivés, représentifiés, on pourrait dire, néologisme épouvantable, mais en même temps représentés, c'est-à-dire présentés à nouveau à la liberté et à la souveraineté des hommes en dehors de leur pure effectivité. Ça sera une manière de réévaluer l'histoire d'une manière morale. Je décris bien sûr une utopie, c'est ce que j'essaie de comprendre parce qu'elle me semble très éclairante. C'est-à-dire ce que le temps a rendu irréversible, eh bien le symbole peut le rendre de nouveau disponible à l'action des hommes. Et le premier acte rituel, donc de séparation d'un espace et du temps, va permettre de lutter contre le sentiment de chaos, contre le sentiment d'infini né de l'effondrement du politique et du crime contre l'humanité. C'est-à-dire que cette expérience du chaos, d'ailleurs, qui est tellement présente et qu'on voit tellement dans le récit de tous les déportés ou des crimes, on pense du Rwanda ou encore plus récemment de nous, je pense au Sierra Leone, c'est-à-dire une sorte qu'on découvre que quand l'État disparaît ou quand l'État devient meurtrier ou criminel, eh bien nous n'avons plus rien pour nous représenter le monde, c'est le chaos intégral. Eh bien, la scène, le rituel, est le premier outil de la justice avant même le langage. C'est-à-dire que sans le secours d'une scène, sans le secours de ce dispositif rituel fondamental, de ce socle rituel, eh bien, le langage serait improductif. Il perdrait, ce n'est pas tant sa vertu signifiante qu'il perdrait, que sa capacité même à s'exprimer. J'ai personnellement assisté à des séances du procès Papon et j'ai été très, très frappé et très bouleversé par cette scène d'un homme de près de 60 ans et au moment de témoigner, il ne pouvait pas parler. Il était dans l'incapacité, brisé par les sanglots, par l'émotion, incapable de parler. Et c'est une expérience qu'on va revoir dans le procès Eichmann, dans tous ces grands procès, c'est-à-dire que la victime ne peut soutenir la présence de son bourreau et endurer la confrontation, et endurer l'épreuve terrible de la confrontation que parce qu'il y a un espace, un dispositif, qui est là pour mettre cette rencontre en perspective. En d'autres termes, la scène a des pouvoirs que le pouvoir n'a pas. Et pour le dire avec Schiller, la juridiction du théâtre commence là où s'arrête le domaine des lois du monde. C'est-à-dire que le premier choix de cette justice, c'est de choisir le lieu pour échafauder cette scène et ces lieux qui étaient éminemment symboliques. Le procès de Nuremberg a eu lieu à Nuremberg, précisément dans ce lieu où le parti nazi se réunissait tous les ans, au mois de septembre, les journées du parti, où c'était finalement, on a voulu faire une antithèse saisissante entre le Nuremberg nazi, le Nuremberg du nazisme triomphant et le Nuremberg du procès. Avec cette sorte, comme si on avait recours à ce mécanisme que les psychologues appellent la contrepassation magique d'un acte, pour l'annulation d'un acte. Le procès Eichmann se tient à Jérusalem, qui bien sûr n'est pas anodin, comme une réaction, comme plus qu'une réaction, comme une volonté de dépasser, de surmonter le chaos en retournant à Jérusalem. On peut dire la même chose d'ailleurs des comités vérité et réconciliation en Afrique du Sud, où on a choisi pas n'importe quel édifice, mais l'édifice de la municipalité ce n'est pas dans un community center que ces commissions se sont tenues, mais dans l'édifice de la municipalité qui était le bastion des Blancs. Et on a vu des victimes accompagnées à la barre par ces mêmes policiers ces mêmes policiers, ou des policiers appartenant au même corps, plus exactement, que ceux qui avaient fait disparaître leurs proches. Et dans ce geste, tout le monde a en tête le geste terrible, d'ailleurs, que fait un membre de la sécurité, des forces de sécurité sud-africaines, mimant devant la commission Vérité et Réconciliation, le geste d'étouffement qu'il faisait à ses victimes pour les faire avouer, et qui a été un cliché, qui est une image qui a fait le tour du monde. En d'autres termes, ce qui est important, c'est de réduire un acte inouï, inédit, de réduire dans une action, dans des catégories pénales, mais avant ça, dans un temps et dans un espace donné. C'est-à-dire, il faut le faire entrer dans un cadre, et ce cadre, il est avant tout un cadre rituel. Écoutons ce qu'en dit Chaim Guri, le poète israélien qui assiste au procès Eichmann et qui, dans un bouquin extraordinaire, à la fois relate ce procès. On a un équivalent avec le livre d'Antje Krog sur Country of Mass Girls pour les commissions Vérité et Réconciliation, c'est-à-dire que les réactions qu'éprouvent ces témoins privilégiés de ces procès ou de ces cérémonies de justice, puisque les commissions Vérité et Réconciliation n'est pas, pour en parler, un procès, eh bien c'est très étonnant de voir comment ils sont frappés. La première chose qui à la fois les frappe et les sécurise, c'est cette dimension rituelle. C'est-à-dire que à Jérusalem, dit Chaim Guri, quelque chose d'étrange et d'exceptionnel s'est produit. Avec une force sans pareille, je le cite, le tribunal a réussi à contenir la puissance dévastatrice du cri qui éclatait comme pour la première fois, toujours cette idée de répétition du monde, et à en convertir une partie dans le langage des faits, des chiffres et des dates, laissant ses échos hanter le procès comme un fantôme. On aborde des faits qui n'ont pas de localisation précise, qui se sont déroulés sur des espaces considérables, de 1933 à 1945, et tout rentre dans des cotes, dans des faits, dans des dossiers. Bref, la loi et la scène sont inséparables. Et ce que le tribunal et son dispositif rituel offrent en dédommagement de ce trouble profond du monde, eh bien, c'est la puissance de sa réalité. Tous les acteurs du procès, y compris l'accusé comme acteur de lui-même, comme acteur de ses actes, eh bien, donnent à ce rituel sa force. Et là encore, permettez-moi de citer Chaim Guri disant « C'est la puissance de la justice, la puissance du cadre, puissance du moment et du lieu, puissance de l'anti-chaos, du réel, du concret. Tout est clair maintenant. Les trois juges en robe noire, le chandelier à sept branches étincelant, la forte nuque de Servatius, sa secrétaire à ses côtés, la rangée des membres du ministère public, les sténographes, les interprètes, l'accusé qui se tient droit, lève la main et termine son serment de témoin par le mot « vérité ». Cette cruauté limpide de la machine judiciaire, c'est la manifestation suprême de l'ordre qui organise le chaos, qui rend leur sens aux faits obstinés, qui libère par sa procédure particulière l'énergie de la vérité qui éclate à la face du monde. » Alors, vous voyez, dans cette citation, entre autres, comment la première réaction et comment cette réaction de la justice, dans cette réaction de la justice face à l'effondrement du politique, la dimension rituelle du cadre est indissociable de la dimension du travail de justice comme un travail strictement éthique et politique. C'est à travers le cadre va donner une première forme aux événements, c'est-à-dire que va rapporter les événements à une scène de la fondation. Je parlais tout à l'heure de l'ordalie qui était ces cérémonies rituelles de justice et qui sont en quelque sorte l'archet du procès. Ordalie vient de l'allemand Urteil. Urteil, le partage des origines. Le procès, c'est si nous sommes en désaccord entre nous, mais si nous sommes en désaccord y compris avec les titulaires de notre souveraineté, on revient aux origines, on revient au fondement de ce qui nous constitue comme communauté politique. Et on voit d'ailleurs que tous les crimes dont j'ai parlé, dont nous parlons aujourd'hui, que ce soit si bien ceux de la pédophilie que de la corruption, que du crime contre l'humanité, nous ramènent à cette fondation, à ce qui nous constitue comme société. C'est certainement pas un hasard si aujourd'hui les deux droits qui nous préoccupent tant, c'est le droit pénal d'un côté ou le droit constitutionnel qui, au sens propre du terme, nous constitue en société politique. En d'autres termes, le rituel va permettre de rapporter un fait par définition inédit, incongru, qui surgit du réel, de les rapporter aux origines du pacte politique. Et l'expérience que nous faisons, par exemple, quotidiennement, en lisant les journaux, en regardant les informations, en militant contre la corruption, par exemple, ou pour le jugement de Pinochet, n'est rien d'autre que de vouloir rapporter des faits de gouvernants, de titulaires de la souveraineté, de les rapporter à ce qui a fondé leur pouvoir, ce qui nous fonde tous, c'est-à-dire aujourd'hui l'idée d'humanité. Et toute la magie du rituel, c'est que précisément, elle va mettre tout le monde à la même échelle, on pourrait dire, en quelque sorte. Pour paraphraser Rousseau, devant la justice, le grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet. Le maréchal Pinochet ou le général Pinochet est débarrassé de son uniforme, ce n'est plus qu'un vieux corps sénile. Et c'est dans son corps physique qu'il va se présenter devant la justice. Et d'ailleurs, c'est cette possibilité extraordinaire de la justice qu'en se saisissant, en s'emparant de son corps propre, eh bien, c'est tout le corps symbolique de la dictature que l'on va juger. C'est toute une politique qui sera jugée. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que cette idée de justice universelle est grâce en partie à son cadre rituel, grâce à son socle rituel, eh bien, constitue nourrit l'idée que tout se compense, que tout sera compensé. C'est en cela d'ailleurs qu'elle a à voir avec la philosophie de l'histoire, avec non seulement avec la figure du jugement dernier, mais aussi avec la philosophie de l'histoire, qui, comme on le sait, était de ramener dans l'histoire et dans le temps, ce qu'ont fait les Lumières, l'idée de progrès et l'idée que c'est ici et au bout de l'histoire que s'accomplirait la justice, une justice compensatrice, une justice où tout se compenserait. Eh bien, aujourd'hui, c'est moins dans le progrès ou c'est moins dans l'idée d'histoire que dans l'idée d'une justice et d'un procès. La différence entre la justice, le tribunal de l'histoire et Nuremberg ou Eichmann, c'est que l'un est une idée, l'autre est une réalité qu'a pu toucher, on pourrait dire, Raïm Ghouri et par exemple tous les spectateurs du dernier film de Ronny Broman. C'est-à-dire que il y a l'idée que toute l'histoire va pouvoir, c'est une utopie bien entendu, être réévaluée de manière morale. Alors, reprenons, si vous voulez, pour récapituler cette dimension rituelle de l'utopie d'une justice universelle, reprenons ces trois dimensions. Eh bien, ce qui est nouveau, c'est que tout d'un coup, nous avons une justice aux dimensions du monde. La justice anglaise s'empare d'un dictateur chilien à la demande d'un juge espagnol. Ça bouleverse les relations entre les deux pays, on peut dire même entre les deux continents. En d'autres termes, la justice n'est plus cantonnée à des malentendus ou à des trous ou à des crimes commis sous une souveraineté particulière, mais la justice dépasse, englobe les souverainetés, les universaux particuliers qu'étaient les nations pour nous hisser à la dimension du monde. Et mieux, elle met, et je crois que c'est ça la force du rituel, et c'est ça ce qui a toujours constitué la force du rituel, et notamment des rituels religieux, c'est qu'il permet de mettre l'homme et le cosmos à même échelle. Il permet à l'homme entendu au corps propre, de pouvoir agir sur l'ordre cosmique. C'est-à-dire qu'on va réunir dans un même espace, dans un même trait de temps, eh bien, deux entités, l'une réelle, l'autre symbolique, radicalement hétérogènes. Donc, dans la justice universelle, il y a cette idée qu'on retrouve d'ailleurs plus ancienne de l'idée biblique du juge des nations, qui était un attribut de Dieu. La justice, vis-à-vis du temps, donne une nouvelle direction au temps. Et je crois que cette dimension est particulièrement importante dans un contexte de mondialisation. Il n'y a qu'à voir l'extraordinaire espoir, en grande partie d'ailleurs, qui est très surprenant, de voir l'espoir qui est mis dans les ONG, dans le mouvement droits de l'homme, sur la justice universelle et sur, par exemple, l'affaire Pinochet ou le jugement de la semaine dernière de Hissène Habré pour les exactions qu'il a commises au Tchad. Et sa très faible productivité, de voir comment le TPI s'est posé comme une alternative, par exemple, à la guerre en Yougoslavie et au déchirement de ce pays, et que le TPI n'a réussi à juger qu'une dizaine, même pas, de personnes. Le TPIR pour le Rwanda en a pas jugé tellement plus. Autrement dit, ce qui est tout à fait... C'est là où on voit cette... C'est-à-dire que l'idée même qu'un procès soit possible suffit à mobiliser les militants et à donner de l'espoir et à donner une consistance à l'utopie. Et donc une raison d'être à l'utopie, une utopie bien, bien singulière, parce que c'est moins une utopie qu'une réorganisation. On peut dire que cette idée de justice universelle, elle permet à nouveau de séparer le monde et de séparer selon une idée nouvelle, historiquement. Ce n'est plus uniquement le haut, le bas, le pur, l'impur, c'est en même temps l'humanité de l'inhumanité. Alors on peut se demander enfin, ce sera ma deuxième partie sur laquelle je terminerai, on peut se demander si l'utopie que je viens de développer ne génère pas aussi ses effets pervers, et si il n'y a pas, après avoir compris en quoi consistait cet investissement dans le rituel, s'il n'y a pas un surinvestissement dans le rituel de la justice. Surinvestissement, c'est-à-dire qu'on en demande trop à la justice. On en demande trop et je vais en donner deux exemples. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler ce nouvel activisme de la mémoire. C'est-à-dire qu'on ne demande pas uniquement à la justice de dire le juste et d'accomplir cette grande promesse de la justice universelle. On lui demande de célébrer la mémoire. On a vu, et c'était encore des débats qui sont très, 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 très chauds pour nous, c'est-à-dire cette idée d'humanité a profondément à voir avec l'idée de souffrance, avec la dimension ahistorique de la souffrance. Je souffre et donc le temps s'arrête. Je suis dans le présent intense de la souffrance. Et cette souffrance qui n'est pas que physique, qui est aussi la souffrance de la disparition, qui est aussi la souffrance du chaos, qui est la souffrance de l'inhumanité, qui est bien sûr bien au-delà de la douleur. Et la justice, ces rites vont permettre d'évacuer cette souffrance, ou d'un coup de publier sa condition de victime. Ces gens qu'on aurait traités auparavant comme des chiens, explique Desmond Tutu, parlant des commissions Vérité et Réconciliation, ont désormais une histoire reconnue par le pays entier. On a ouvert aux victimes un forum officiel où elles ont raconté leur histoire. Toutes ne sont pas venues. Mais celles qui se sont présentées, dit-il, nous ont dit dès la première audition, nous avions raconté notre histoire partout, mais l'avoir racontée ici nous a, pour la première fois, libéré du poids qui pesait sur nos épaules. Toujours une... Vous remarquerez cette dimension utopique et cette dimension, réparatrice, consolatrice des rituels de la justice. C'est-à-dire que ce que remarquait déjà Hannah Arendt à propos d'Eichmann en disant il y a une sorte de droit nouveau qui est le droit des victimes à témoigner et qui est plus qu'un droit, qui est un devoir existentiel. Et si le crime contre l'humanité a fait peser sur leur être et non plus sur leur patrimoine, sur leur être même, sur leur condition humaine même, une menace, eh bien cette menace doit être réparée par cette cérémonie rituelle de la justice qui vont permettre aux victimes d'être reconnues. La reconnaissance étant le maître mot de cette nouvelle idée. Alors, je crois que c'est retourné, c'est régressé en quelque sorte à une première fonction du rituel, qui était sa fonction de communication avec les choses et les catégories essentielles de l'espace, du temps et des séparations essentielles. Et c'est oublier la deuxième dimension dont j'avais parlé en introduction, qui est celle de la délibération, qui est celle de la procédure, qui est celle, ce n'est pas parce que les victimes souffrent que M. Papon est nécessairement coupable. Et donc c'est au prix d'un examen judiciaire rationnel, argumenté, juridiquement, rationnellement, qu'on pourra... il n'y a pas de transitivité, il n'y a pas de lien obligatoire entre la souffrance et la culpabilité de quelqu'un. Peut-être que, justement, ces souffrances n'ont plus d'auteur ou que leurs auteurs ont disparu. Et lorsque la Cour suprême d'Israël relaxe Demjanjuk de sa... qu'il déclare que Demjanjuk n'est pas Ivan le Terrible, eh bien, ça soulève un tollé en Israël parce que, finalement, l'opinion publique attendait un second procès Eichmann pour la nouvelle génération, celle qui n'avait pas connu la Shoah. Et lors du procès, lors de cet acquittement, eh bien, acquitter Demjanjuk au motif que les témoignages sur lesquels reposait sa condamnation par la Cour de district de Jérusalem était insuffisante parce que les témoignages avaient été affaiblis par 50-50 distance, eh bien, ces témoignages étaient sacrés. Et la décision de la Cour suprême israélienne devenait sacrilège. On a vécu des choses analogues, je ne prends pas parti, mais je crois que dans le procès Papon, on a bien vu cette difficulté à évaluer et à se sortir de notamment d'une certaine ligne de défense, notamment d'Arnaud Klarsfeld, qui poussait à se dire tous les éléments fondamentaux du procès devaient être réévalués pour ce fou de la mémoire, comme il a été qualifié, non pas... en fonction du principe de justice et de procédure, mais eu égard à la mémoire et la présomption d'innocence, l'égalité entre les parties, la reconnaissance d'un tiers, bref, tout ce qui constitue le procès, eh bien, a été un peu perverti ou a été menacé par cette à la fois cette passion de la justice, mais qui passe par une haine du droit et des procédures. Alors, c'est à l'évidence un premier surinvestissement des formes de la justice qui est préoccupant, sur lequel on pourra revenir, mais je crois que il a une autre version qui n'est plus pour le crime contre l'humanité, mais qui est cette sorte de justice des catastrophes que l'on voit s'installer dans beaucoup de pays, et notamment en France, chez nous, et plus particulièrement d'ailleurs en France, chez nous, peut-être, c'est-à-dire que des procès qui mettent en cause des responsables administratifs, on pense à l'affaire du Drac de Grenoble, ou l'affaire de Furiani, des Barbetans, dans lequel on cherche du sang contaminé, bien entendu, dans lequel on recherche absolument un auteur au mal, et dans lequel le procès va remplir une fonction nouvelle qui est peut-être qui tire sur le droit et sur les règles, les canons de la procédure pour faire du procès une grande cérémonie collective et qui n'est pas absolument exempte d'ailleurs de dérives sacrificielles. On pourra en reparler. C'est-à-dire que je crois que ces catégories essentielles de la faute, de la culpabilité, du rapport au temps, elles ont moins à voir avec la philosophie qu'avec la tragédie. Et elles renvoient à une dimension tragique. Et encore une fois, j'allais dire, à un inéliminable tragique de l'existence. C'est-à-dire que, eh bien, nous sommes confrontés à travers ces catastrophes dans un siècle de technologie, de promesses de libération par la science et par la médecine, nous sommes confrontés au drame de la finitude, nous sommes confrontés au drame de la souffrance qui ne trouve pas de consolation. Et on pourrait... qui ne trouve pas de consolation dans des grands discours, dans des grands systèmes de sens. Et on pourrait d'ailleurs établir une corrélation, ce n'est pas moi qui le fais d'ailleurs, je la dois à un spécialiste de la tragédie. faire une corrélation entre le retour de ces grands procès, cette fascination pour le tragique, je pense par exemple l'émotion que soulève l'accident dans lequel la princesse Diana perd la vie, d'ailleurs dans lequel on cherche encore, comme par hasard, un exutoire pénal qui ne fonctionne pas, mais on le cherche. C'est-à-dire que c'est le mal qui fait exister a posteriori la recherche d'une culpabilité et d'une culpabilité, d'une responsabilité pré-éthique. La responsabilité éthique, surtout après les Lumières et après le XIXe siècle, c'était la responsabilité de l'intention coupable, de celui qui a délibérément choisi d'enfreindre la loi pénale. Et aujourd'hui, eh bien, lorsqu'on reproche à un préfet de ne pas avoir signé le PV ou d'avoir signé un PV d'une commission de sécurité qui, si elle s'était tenue, aurait peut-être empêché que le drame se produise, on ne peut pas dire qu'il ait délibérément choisi et voulu la mort de 15 enfants ou de plusieurs victimes du sang contaminé. C'est par un raisonnement qui part du préjudice pour remonter à la faute et non pas de la faute pour arriver au préjudice. Bref, nous aurions une sorte de, toujours ce jeu de vase communicant entre la tragédie qui réapparaît et le tragique qui réapparaît lorsque les grands systèmes de sens, ceux qui devaient absorber tout l'absurde, eh bien, sont en régression. Est-ce que c'est un hasard si le 5e siècle grec ou le 17e français se sont montrés plus sensibles que d'autres à une vision tragique du monde. Et je cite ce professeur, toutes deux ont en commun d'avoir été humanistes, c'est-à-dire qu'elles ont inventé ou réinventé et mis la condition humaine au centre de leurs préoccupations. Et pour ce faire, il fallait éloigner les dieux. Chaque fois, l'exil de la divinité amorce le cycle de l'action humaine séparée et coupable, se développant dans la peine et le deuil, échouant dans une solitude veuve. Vient le temps des incertitudes, du doute, des interrogations essentielles, pourquoi tant de bonheur détruit? Pourquoi les échecs inévitables? Pourquoi le mal? Pourquoi la mort? Les dieux sont devenus silencieux. En revanche, les époques portées par un courant d'idées dominant répudient le tragique. Depuis le Moyen-Âge, porté par les réconfortantes vérités de la foi, les Lumières, confiantes dans les raisons philosophiques, le XIXe siècle, avec ses révolutionnaires optimistes et utopistes, et finalement notre XXe siècle, ou ce XXe siècle qui avait ses penchants scientiste. Je suis très frappé, c'est une petite parenthèse, je suis très frappé par exemple dans le phénomène, on pourrait dire, du témoignage du docteur Vasseur sur la prison. C'est très intéressant de voir ce rapport au mal. C'est-à-dire que finalement, c'est c'est ce que je n'ai lu dans Le Monde, je n'ai pas lu tout le livre, eh bien, elle se scandalise moins devant l'injustice que devant le mal objectif, que devant, et notamment, elle fait référence comme par hasard à une crise d'épilepsie. Il faisait des bulles de sang avec sa bouche, l'épilepsie dont on sait qu'il était signe de possession. C'était le grand mal, notamment dans la Bible. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une dénonciation sans accusation particulière. C'est nous sommes face au drame de la finitude. Oui, il y a parmi nous des épileptiques. Oui, nous sommes tous condamnés à mourir. Nous devons, et c'est le rôle de la justice, de nous permettre de contempler un mal sans remède. Alors je crois que là, il y a une préoccupation politique. C'est oui, pour redevenir et pour aborder ces nouveaux rivages de l'humanisme, d'un nouvel humanisme, d'un humanisme du XXIe siècle, mais d'un humanisme qui ne renie pas ses exigences rationnelles et argumentatives. C'est-à-dire que le propre de la justice, c'est qu'elle permet cette contemplation du mal et elle permet cet exutoire tragique, mais en même temps, la justice nous permet de raisonner à partir d'une situation. Je crois que, pour conclure, on peut dire que les rituels, la fonction rituelle de la justice, et qui ne perd pas du tout son sens aujourd'hui, elle permet de réactiver la communauté politique comme présence à elle-même et à la fois comme innocence possible, comme tournée vers un télos, vers un au-delà. Et par le détour, par cette figure tierce, et c'est ça qui est nouveau, par un tiers commun à toute l'humanité, le rituel de la justice donne à la démocratie un repère temporel, spatial et donc une éthique. Merci.
Merci Antoine Garapon. Maintenant, nous allons passer au traditionnel jeu des questions et des réponses. Merci de poser vos questions brièvement et simplement, en vous levant, parce que d'ici, on ne voit pas forcément les gens. Il y a un monsieur là-bas, en haut, et une dame ensuite.
Oui, vous avez commencé votre exposé en justifiant le rituel de la justice par un affaiblissement du politique. Au contraire, on l'a vu dans l'affaire Clinton, comme on l'a vu dans des affaires récentes en France. N'avez-vous pas l'impression que la justice est le jouet des politiques ? On le voit encore plus aujourd'hui, quand tout le monde voit bien qu'avec cette fameuse réforme de la justice qui viserait à donner plus d'indépendance aux magistrats, où finalement le politique n'est pas prêt de se séparer de ce pouvoir. Deuxième petite question, n'avez-vous pas l'impression non plus que ce rituel finalement qui vise à affaiblir un homme au point de le briser, je pense notamment à l'affaire Seznec, où quand il faut revenir un petit peu sur ce procès, puisque finalement on s'est aperçu que la justice s'est trompée, n'avez-vous pas l'impression que la justice ne veut pas non plus reconnaître ses propres fautes ?
Je réponds tout de suite.
Oui, bien sûr. Oui.
D'accord. Alors, si vous voulez, est-ce que la justice est le jouet du politique ? Oui, mais pas complètement. Et c'est ça le problème. Prenez l'exemple du procès Papon. Le pouvoir politique cherche à empêcher le procès Papon. Finalement, ça ne marche pas. Et le procès Papon devient un procès qui est entièrement mené par les victimes, où les victimes obligent, et on assiste à d'ailleurs ces choses ubuesques, dans lesquelles le parquet est à la traîne, dans lesquelles le parquet ne poursuit pas, par exemple, dans le convoi de 43, parce qu'il n'y a pas de survivants. Bon. Alors, on sait, par exemple, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, que, par exemple, le procès Eichmann a été monté par Ben Gourion à des fins politiques très précises qui étaient liées à la constitution de l'État d'Israël. Bon. Mais, donc, autrement dit, on ne peut pas dire, et c'est ça la faiblesse du raisonnement, oui, bien sûr, le procès, le grand metteur en scène du rituel judiciaire est le pouvoir, mais ce n'est pas entièrement le pouvoir, et que la scène a toujours tendance à s'émanciper par rapport à son auteur. Aujourd'hui, ce qui se passe avec la CPI, l'attitude des Américains à l'égard des négociations de Rome et puis de la Cour pénale internationale, ils ont très peur. Ils ont très peur parce qu'un jour, des généraux américains se feront arrêter en vacances en Thaïlande ou en France ou en Italie et puis passeront le restant de leur jour en prison pour crime de guerre. Et donc, et que l'affaire d'Enola Park et de la bombe atomique n'est pas réglée, quoi, dans les esprits, j'entends, hein, et pas dans l'esprit des Japonais, d'ailleurs. Donc, voilà, et donc la qualification, et c'est d'ailleurs tout à fait ce qui rend notre période intéressante, c'est que la qualification, tant que les Alliés ou les Américains se pensent être les maîtres du monde qui sont les maîtres des qualifications, tout va très bien. Quand ces qualifications leur échappent et que ça passe à des juges indépendants ou disons qu'ils ne sont pas entièrement liés au pouvoir, eh bien on pourra dire eh bien l'usage du recours à la bombe atomique est un crime de guerre et donc ceux qui l'ont commandité sont passibles des peines, etc. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire, bon, vous faites référence à la réforme de la justice qui est un peu autre chose, mais alors il faut éviter une vision, comment dirais-je, parce qu'il faut l'éviter parce qu'elle empêche, si vous voulez, encore une fois, elle est vraie, mais elle n'épuise pas le sujet, de dire la justice détruit les hommes. La justice détruit les hommes, mais parfois elle les... Je prends l'exemple de José Bové. Est-ce que José Bové a été détruit par la justice et par la prison ? Non. On peut même dire qu'on retrouve cette fonction tribunicienne de la justice que beaucoup de pouvoirs redoutent, d'ailleurs. Et le propre de la disparition qu'on a vu naître au Guatemala ou en Argentine, c'est précisément pour éviter de faire des procès. Parce qu'on a bien vu que les procès politiques tels qu'ils avaient été faits par Staline ou la deuxième vague, surtout des procès Slansky à Prague, eh bien, ça ne marchait pas. C'était tout de même, au contraire, très, très contre-productif. Donc, si vous voulez, on ne peut pas... Oui, c'est parfois un jouet du pouvoir. Oui, la justice parfois détruit, mais on ne peut pas la réduire à cette fonction-là.
Une question de madame...
Deux questions. Je pense que ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le tiers, la fonction du tiers qui était attribuée à Dieu auparavant et qui maintenant est à chercher du côté des hommes, c'est une fonction symbolique extrêmement importante, à condition que les personnes ne se prennent pas pour incarner la vérité. Parce que la vérité, ça peut être précisément quelque chose du côté de la destruction. Mais je voudrais dire autre chose de la... Le produit de la justice, c'est la prison. Alors là, je précise que j'étais à Médecins sans frontières, que j'ai parcouru le monde, que j'ai vu la violence humaine dans le monde, et malheureusement, je l'ai vu à la prison de la santé. Ce que j'ai vu à la prison de la santé, c'est bien plus que quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie. C'est la violence mise en acte. Je pense que tous les juges devraient aller à la prison de la santé pour voir où sont incarcérés les gens, le soir sur un endroit où il y a en même temps de la merde et du vomi.
Alors, écoutez, il se trouve que moi aussi, j'ai, en tant que militant pour la Fédération internationale des droits de l'homme, j'ai visité pas mal de prisons au monde, dans les pays sous-développés, en Afrique, et, au Mexique, au Guatemala, etc. Je connais bien la santé. Donc, je crois que je me méfierais, quitte à être impopulaire et à contre-courant, je me méfierais de sorte d'émotionnalisme. Oui, il y a du scandale dans la prison, mais il y a aussi des gens qui militent, qui travaillent depuis des années, des personnels pénitentiaires, des syndicats, des associations, etc. Et que la prison devient, et c'est une excellente chose, un lieu politique, un lieu de dénonciation. Mais on ne peut pas dire que la prison, la santé est pire que, ce que, la, que des prisons du tiers-monde. Alors là, on n'a pas vu les mêmes. Excusez-moi, mais on n'a pas vu les mêmes. Parce que moi, j'en ai vu aussi, hein, des prisons, j'en ai vu, hein, en tant que, qu'observateur judiciaire international, etc. Et bon. Eh bien, on ne peut pas dire ça. Si la France a réussi quelque chose, c'est la loi de 94 sur la santé en prison. Donc, alors oui, parfois, il y a du vomi en prison, c'est vrai. Maintenant, si vous voulez, je me méfie. C'est une excellente chose, je le dis tout de suite, c'est une excellente chose qu'on parle des prisons grâce aux mauvais bouquins et parfois aux mauvais arguments faux du livre de Madame Vasseur. Mais si vous voulez, c'est la même, et je suis tout à fait prêt à en parler, quand elle dit qu'il y a des gens qui sont traînés aux pieds, qui sont entravés aux pieds, non, ça n'a jamais existé à la santé. Elle ne peut pas entendre des bruits de chaînes de gens qui sont entravés aux pieds. Quand elle dit le problème des travestis, ils ont été changés en 1995, précisément parce qu'il y a un problème. Donc, si vous voulez, moi, je suis juge et militant politique et militant des droits de l'homme. Et je crois qu'on ne peut pas se laisser aller, quoi. Tout à fait d'accord pour poser le problème de la prison, pas pour le poser sur des termes parfois faux et émotionnels, et se laisser emporter par notamment des sortes d'apitoiements. Penser la prison, ça oblige aussi à penser la peine. Ça oblige aussi à penser pourquoi est-ce qu'on punit, comment est-ce qu'on punit. Ça aussi, et si vous voulez, dans le même temps qu'on s'apitoie sur les prisonniers, en même temps, on demande de plus en plus de peines et les juges ne sont pas assez répressifs. Et on voit ce lien d'ailleurs assez préoccupant entre la démocratie, le libéralisme et l'augmentation des prisons, comme le dit très bien Loïc Wacan. Donc, si vous voulez, je crois que à l'Université de tous les savoirs, où on se préoccupe de savoir, il ne faut pas forcément se laisser aller aux émotions.
D'autres questions ?
S'il vous plaît, je voulais juste vous demander si, en tant que juge, vous étiez influencé dans vos décisions par les médias et par l'émotion qui pourrait être le contexte d'une affaire déterminée. Merci.
Le problème de l'influence des médias, c'est que c'est une influence directe et indirecte. Oui, bien sûr, on ne peut pas échapper à l'influence des médias. Mais, par exemple, on remarque que les juges suivent toujours pratiquement la sensibilité sociale à l'égard d'un problème. Et qu'une société qui est travaillée par ces problèmes d'immigration, les juges vont dire plus répressifs vis-à-vis des étrangers, pareil pour la drogue, pareil pour les délinquants sexuels, ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a les médias pour les grandes affaires, où c'est assez facile de résister aux médias pour les grandes affaires. Quand on a presse, bon, parce qu'on voit le coup arriver, j'allais dire, un juge professionnel. En revanche, ce qui est beaucoup plus dangereux, j'allais dire, c'est l'ambiance, c'est en dehors des grandes affaires médiatiques, c'est une ambiance de répression, comme aujourd'hui, par exemple, vis-à-vis des délinquants sexuels, où ils incarnent le mal absolu et une des causes d'augmentation de la population carcérale, les deux grandes causes, c'est les stupéfiants et les étrangers, mais ça c'est plus sur des peines courtes, et puis la délinquance sexuelle. Donc si vous voulez, les médias n'influencent pas que les grandes affaires.
Une question de monsieur.
Oui, bonjour. Ce que je remarque, c'est dans la société, c'est il y a une vraie autodestruction. Le mal vient de ceux qui sont censés le combattre, dites-vous. C'est vrai, parce que le droit attend le conflit pour légiférer, attend que le mal arrive pour prendre, pour le combattre. Vous avez parlé des procès. Le crime, par exemple, de Hitler a permis, a posteriori, la constitution d'un État, sans le vouloir, bien sûr. Donc, le problème est ailleurs. Et on trouve qu'on peut régir le bien qu'en faisant le mal. Le problème est dans notre façon de comprendre ce que ça veut dire, le rite. Est-ce que c'est un rite confessionnel ou un rite de théâtre, un rite qui pousse à développer des vertus morales ou un rite qui fait un jeu, qui divertit, qui banalise la morale. Hier, on a eu un cours qui, je crois, y répond aussi sans le vouloir à cette problématique. Il a le prof Spender, Dan Sperber, oui. Il avait parlé de méta-représentation et de mécanismes de filtrage. Il a fait que constater ce qu'il y a, en fin de compte. Mais en fin de compte, il fallait plutôt développer les raisons morales qui préviennent justement les conflits que d'essayer de les envenimer d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, il était d'accord avec moi à la fin du cours. Merci.
Alors, oui, je crois qu'effectivement, c'est tout le... Comment dirais-je ? On pourrait dire, si on était très optimiste, on pourrait dire que du plus grand mal naît un plus grand bien, et que l'effondrement du crime contre l'humanité naît l'idée d'une justice universelle. Il faudrait que, malheureusement, le crime est plus réel pour l'instant et plus concret que la justice. Alors, vous dites qu'il y a le rite confessionnel. Je crois que le rituel judiciaire, on l'appelle comme ça, faute de mieux, il est un peu tout à la fois. Il est à la fois jeu, scène, théâtral, et il a cette dimension religieuse. Mais il est plus que tout ça.
Une question de monsieur.
Oui, bonjour monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous sur beaucoup de points. Mais alors moi, j'ai dénoncé un petit paradoxe. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire qu'on demande... vous dites qu'on demande trop à la justice. Moi, je dirais qu'on ne demande pas assez à la justice. En plus, est-ce que c'est normal de protéger avec le droit les bourreaux, par exemple? Vous trouvez qu'on demande trop à la justice de protéger les bourreaux? Par exemple, et je continue ma question, il ne faudrait surtout pas protéger le lien temps-souffrance. Merci.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous voulez... Ce que je crois, c'est que c'est très intéressant. Il y a une scène dans le procès Eichmann qui est tout à fait... C'est que Eichmann, pendant tout le temps, les 3 mois d'avril à juillet, quand les témoins déposent, il est impassible, etc. Et puis, Eichmann est interrogé par le président et par l'accusation. Il ment, il se prend les pieds dans le tapis, il est poussé à ses retranchements, et puis... Il y a un moment où il ment et Raïm Goury a cette réflexion que je trouve très profonde, il dit, et tout d'un coup, c'est un côté navrant, il y a un côté plus que navrant, il y a un côté désespérant de voir cet homme qui ment comme un gamin et qui a peur de la mort et qui a peur d'y passer et donc il demande la report d'une audience parce qu'il a pris un peu froid, il est enrhumé, etc. Et ce qu'a permis le procès Eichmann, entre autres, c'est de réhumaniser l'accusé, le bourreau, comme vous dites. C'est-à-dire, Eichmann, c'est pas un monstre, c'est un pauvre type, c'est un homme sans pensée, dit Hannah Arendt. Et il fallait ce procès pour qu'on en fasse l'expérience. Peut-être que sans ce procès, il aurait gardé cette figure sacrée qu'ont gardé ceux qui sont suicidés d'hommes énigmatiques et qui ont gardé, grâce au suicide, peut-être leur toute puissance. Donc je crois que c'est profondément l'expérience de la justice de réhumaniser les victimes qui ont été sorties de l'humanité, en quelque sorte, par le crime, mais de réhumaniser aussi les bourreaux qui se sont crus des surhommes, on pourrait dire, dans quelque sorte. Donc je crois que là, oui, bien sûr, le droit protège tout le monde, indifféremment, les victimes comme les bourreaux.
Une question de monsieur.
Bonjour, moi j'ai une question ici. Moi j'ai une question à propos de la ritualisation juridique de la vie sociale, et je trouve que c'est une tendance dangereuse des acteurs juridiques de donner dans le positivisme juridique comme vous l'avez fait à propos de la prison. Et je voulais savoir si vous pouviez un peu plus expliciter votre position là-dessus en tant que juge et en tant qu'intervenant aujourd'hui.
Sur la prison ?
Non, sur la ritualisation juridique de la vie sociale, la juridicité, enfin, telle qu'on peut l'observer aux USA, vous avez parlé de vacances, telle qu'on peut l'observer en France.
Ce qui me semble, c'est que la ritualisation, ou la juridicisation, si vous voulez, elle va avec la liberté. Plus on est libre, j'entends libre au sens de liberté démocratique, plus il faut, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, quand on est libre, eh bien, la liberté appelle la responsabilité, et la responsabilité peut appeler la pénalisation comme un effet pervers. Plus on est égaux, plus on a besoin de tiers. Et il me semble donc qu'il y a, et on pourrait continuer pour toujours la trilogie de liberté, égalité, fraternité, comme la fraternité, il faut passer du fratricide à la fraternité. Et donc il me semble que le droit et la justice sont pour l'instant des relais indispensables pour réinventer un nouveau mode politique d'être ensemble. Et pour réorganiser la coexistence humaine. Je crois que oui. Alors, c'est peut-être un moindre mal. Ça, après, on peut penser qu'il y en a trop. Moi, je suis tout à fait prêt à penser qu'il y en a trop. Mais on ne peut pas, si vous voulez, dire, eh bien, désormais, c'est l'initiative individuelle et ne pas penser que ces comptes seront tous payés un jour, et notamment en face des victimes, devant un juge.
Une question de monsieur.
Oui, je voudrais revenir sur deux événements qui, à mon avis, sont très significatifs du point de vue du rituel. Justement, la commission réconciliation en Afrique du Sud, parce que ça, si j'ai bien compris, c'est peut-être pas le cas, c'est du rituel sans justice, hein, puisqu'il y a eu témoignage et il n'y a pas eu de condamnation. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que vous disiez. Enfin, en tout cas, c'est du rituel sans justice. Et puis un sujet un peu moins sérieux, mais qui était à mon avis assez symptomatique, c'est le cas de O.J. Simpson, où là le rituel a été remplacé par un cirque. Il a pu acheter une équipe d'avocats vraiment de très haut niveau qui ont transformé le procès en un cirque absolu avec un juge qui ne maîtrisait plus rien. Et il a acheté par le cirque son innocence. Donc je pense que c'est deux cas assez symptomatiques.
Alors je dirais, et là ce n'est pas moi qui le dis, c'est Desmond Tutu qui répondrait à votre question en disant la justice de la commission Vérité et Réconciliation, ce n'est pas la justice rétributive, c'est une justice... Il appelle ça en anglais « restorative justice », restauratrice, reconstructive, on pourrait dire. C'est-à-dire que le rôle de la justice, précisément si elle veut échapper à cet enfer de la sanction et de renvoyer à chaque fois un mal, de répondre à un mal par un mal, eh bien, c'est d'avoir ce côté reconstructif, reconstructif d'une nation entière concernant l'Afrique du Sud. Donc là, sur ce point-là, Desmond Tutu, c'est amplement justifié. Avec d'ailleurs, bon, on peut revenir dessus, si vous voulez, on peut continuer la discussion. Je crois que c'est une idée intéressante qui ne règle pas tout, mais c'est une idée intéressante. Alors ensuite, quand vous dites O.J. Simpson, c'est du cirque, ça me semble un peu trop rapide. O.J. Simpson, c'est aussi une manière de montrer et de faire ressortir des rapports de race et aussi des problèmes raciaux aux États-Unis et donc le fait qu'un certain nombre d'Américains, de Noirs américains, ne se sentent pas pleinement américains et se sont emparés d'un procès et de celui d'un d'entre eux qui a réussi. S'en sont servis comme d'un forum politique. Alors on peut contester de faire de la justice un forum politique. On peut dire que c'est un cirque, à mon avis. Et on peut dire aussi que ça manifeste ça manifeste aussi une autre tendance qui est typiquement américaine, mais que peut-être on verra un jour arriver chez nous, c'est-à-dire que, eh bien, le jury se résume. Quoi, on ne peut pas tenir d'autres discours que celui de sa conditions. Les Noirs doivent voter pour les Noirs, les Blancs pour les Noirs, les Hispaniques pour les Hispaniques, avant même que se posait la question de la culpabilité et l'innocence. Donc je crois que ça montre la perversion du système du jury américain, mais en même temps, la force de la justice, qui est une instance de réflexivité par rapport aux politiques, et qui en l'occurrence a délivré un message qui était bien au-delà de ce qu'avait fait ou ce que n'avait pas fait O.J. Simpson.
Nous allons prendre deux questions pour finir, monsieur et madame.
Oui, c'est sûr. Je reviendrai sur la question des prisons. Vous avez indiqué des excès à la question qui vous a été posée tout à l'heure, et même à dire jusqu'à des fausses informations qui seraient véhiculées, entre autres, par des livres. C'est assez inquiétant,
car nous sommes, nous, en tant que citoyens, en droit d'attendre une information objective, surtout sur la justice. Alors, ma question est, est-ce qu'on peut avoir une justice authentique s'il y a des grosses insuffisances dans les prisons ? Ce que vous n'avez pas constaté sur les insuffisances, mais vous avez parlé d'excès.
Si vous voulez, je crois que le problème, c'est pas celui de la justice, c'est celui de l'information. Si le monde, si vous voulez, je suis d'autant plus partagé que je trouve que c'est une bonne chose qu'on s'interroge sur la prison. Donc, je l'aurais dit une deuxième fois, je trouve que c'est très bien qu'une société soit mal avec le problème de la prison. Alors, que la prison soit un boulet que traîne la justice et qu'on traîne tous, il n'y a pas que la justice qui le traîne, hein. La justice elle fait les bases œuvres pour la société, mais on le traîne tous, le problème de boulet de la prison, me semble également, il faut le regarder en face, si vous voulez. C'est-à-dire que, dans la prison, on découvre aussi ce qui est une expérience quotidienne pour le juge. Et je m'excuse d'employer ces grandes catégories. Le problème du mal. Oui, effectivement, il y a des salauds parmi nous. Passez-moi l'expression. Le problème, c'est que la prison joue. Il y a peut-être les deux tiers, ou peut-être plus encore, de gens qui n'ont rien à y faire en prison. Et le problème, c'est qu'on reste sur un modèle qui est éculé. C'est-à-dire qu'on reste sur un modèle qui garde. Sur une peine qui garde comme qui se fonde sur le temps et sur une souffrance qui ne se dit pas, sur une privation qui entraîne des souffrances qui ne sont pas prévues par la loi. Et donc on a repensé la peine en dehors de la prison, une peine qui soit adaptée au crime même ou au délit même, qu'on punisse, ce qui est une vieille idée de Montesquieu d'ailleurs, hein, qu'on punisse les délits financiers par le portefeuille plutôt que par la prison, les délits politiques par la déchéance électorale, voire civique, plutôt que par la prison, les infractions, l'inceste par la déchéance de l'autorité parentale plutôt que par la prison, la drogue par la thérapie plutôt que par la prison. Alors oui, d'accord, reprenons le problème de la peine, reprenons le problème de savoir ce que font les gens en prison, ce qu'ils n'y font pas. Parlons aussi du problème des détenus dangereux. Il y a des gens dangereux. Et c'est comme ça. Et si vous voulez, je ne suis pas d'accord pour partir sur de fausses informations, comme malheureusement en contient le livre de Madame Vasseur. Et je ne suis pas d'accord non plus pour limiter le problème à un problème d'apitoiement qui est la dérive de l'humanitaire, c'est-à-dire comme si le seul rapport que nous pouvions avoir, c'est celui de l'apitoiement. Parce que l'apitoiement, la pitié, on s'apitoie aujourd'hui sur les prisonniers, demain on s'apitoiera sur la victime et on demandera encore plus de prison. Donc ça me semble être un rapport politique extrêmement diminué que celui de l'apitoiement. Que l'on reprenne la question de la peine. Pourquoi mettons... Alors ça, tout à fait d'accord, et j'ai des propositions à faire même de ce côté-là.
Une question de madame pour finir.
Oui, moi c'était une question dans la série « On en demande trop à la justice ». Je voulais revenir sur le procès Gourlin contre la CEITA. C'est le genre de procès qu'on voit de plus en plus aux États-Unis, mais qui en France, ce cas-là fait jurisprudence en l'occurrence. Et je voulais savoir, d'après vous, pourquoi on en est arrivé là aussi en France et surtout, quelles sont les perspectives dans ce domaine ?
Si vous voulez, en France, pourquoi on arrive là ? C'est-à-dire qu'en France, une grande partie de la réserve de procès, on pourrait dire, ne venait pas devant la justice à cause de l'État. À cause de l'État et de la sécurité sociale qui épongeait, qui absorbait un grand nombre de conflits en les réglant. Alors, aujourd'hui, le procès de la CEITA, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, dans le fond, je ne suis pas loin de penser que la France découvre ce que c'est que la justice. Et à commencer par l'État. L'État découvre ce que c'est qu'une justice, l'État découvre ce que c'est que de rendre des comptes à un tiers qui sert véritablement extérieur, qui n'est pas une partie de lui-même, et le rendre notamment pour des questions. Ce que je constate, c'est qu'aux États-Unis, toutes les grandes entreprises, IBM, Microsoft, Kodak, et beaucoup d'autres, ont eu des procès faits par des consommateurs, dans lesquels ils ont d'ailleurs payé, quoi, ça a été pour eux des véritables défis, et que nos grandes entreprises en France et l'État, jusqu'ici, ont été immunisées. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose.
Merci Antoine Garapon. Demain, le problème de la responsabilité.